Salut à toutes et à tous, c'est Nina, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Résistance. De venir de Paris, de Lyon ou de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes mercredi 18 mars, ou jeudi si vous nous écoutez en rediffusion. Et si c'est le cas, bonne matinée à vous. Plus que quelques jours avant le deuxième tour des élections municipales, à Rennes, les listes d'Union de la Gauche, la liste d'Union du Centre et la liste de la France Insoumise sont toujours en lice. Et à l'occasion des municipales, de nombreuses associations ont pris les devants et formulé des recommandations à l'intention des listes candidates aux municipalités. Des associations comme Terre de Liens, l'ANVITA, la FSGT, elles ont publié de petits guides pour que leur expertise de terrain et les sujets qu'elles défendent comme l'éducation populaire, le soutien à l'agriculture paysanne ou bien d'autres encore soient écoutés et pris en main par les prochains et prochaines élus. Et la chronique du jour vous parlera d'une association qui ne déroge pas à la règle. 3 en 1 accueillerait en fin d'émission Patrick et Jean-Claude du collectif Dignité Cimetière et ils nous parleront des demandes qu'ils formulent aux listes candidates pour défendre les droits des personnes qui décèdent dans l'isolement ou dans la grande précarité à Rennes. Mais avant, eh bien, on va vous parler du cerveau, des processus qui mènent à la fabrication de nos opinions et de ce que cela veut dire pour le débat sociétal. Et Julie, il me semble que tu as reçu quelqu'un pour en parler.
Alors oui, je me suis entretenue avec Pierre-Yves Jonin, qui est docteur en psychologie et neuropsychologue au CHU de Rennes, qui donnait justement une conférence sur le sujet à Pontchaillou le mardi 17 mars. Et ensemble, nous avons parlé des différents processus psychologiques qui amènent à la fabrication d'une opinion. Ensuite, je lui ai posé des questions sur la différence de perception des informations entre individus et l'impact que cela pouvait avoir sur notre société. Il a notamment évoqué la polarisation des opinions et la menace que cela pouvait avoir pour une société.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné dans cette interview ?
Oui, il a notamment mis l'accent sur la différence entre adhérer à une fake news et refuser de croire à une information vérifiée. Ce sont deux choses bien distinctes et que contrairement à ce que l'on pourrait penser, personne n'est armé contre ça.
Voilà, vous avez le programme du jour, alors bonne émission à toutes et à tous. On se retrouve juste après cette interview, mais tout de suite, on enchaîne en musique avec le groupe Fulumiziki, un groupe afro-punk futuriste de la République démocratique du Congo que vous pouvez retrouver en concert ce samedi soir à l'Antipode.
Magitana bango, ekwe anamai, magitana bango, esukana.
de retour en plateau dans 3 en 1 et tout de suite c'est parti pour l'interview du jour. Au micro de Julie, on va parler de fabrication d'opinion et de fake news.
L'arachnophobie, la peur des araignées, est aujourd'hui reconnue comme l'une des phobies les plus partagées dans la population. Mais serait-elle répandue à tort ? À Rennes, deux chercheurs de l'université Rennes 1 ont participé à une étude internationale publiée dans Current Biology en août 2022. Celle-ci vise à analyser, je cite, « la médiocre qualité des informations véhiculées par les articles et reportages de presse sur les araignées ». Conclusion, la propagation de la désinformation est alimentée par un nombre limité de facteurs clés et le ton sensationnaliste d'un article y joue un rôle particulièrement important. Aujourd'hui, n'en déplaise à nos arachnophiles, nous allons plutôt aborder le sujet de la fabrique de nos opinions. Entre sensationnalisme, infox et émotion, notre cerveau a sa manière bien particulière de traiter ces informations. Et dans cette édition du 18 mars de 3 en 1, nous recevons Pierre-Yves Jonin, docteur en psychologie et neuropsychologue au CHU de Rennes, pour comprendre comment la fabrication de nos opinions impacte nos manières de raisonner collectivement. Pierre-Yves Jonin, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous donnez régulièrement cette conférence. J'ai vu que vous l'aviez donnée à Janzé, à Brest aussi, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est un sujet qui revient beaucoup ?
Alors, je crois que depuis l'élection de Donald Trump, la première en 2016, le terme fake news s'est largement imposé dans le débat public. On parle en bon français d'infox, ce néologisme pour désigner ce que les anglophones appellent fake news. Tout le monde a pu constater que c'est un sujet qui revient fréquemment dans l'espace médiatique, sans doute à juste titre. Moi, personnellement, si je m'y suis intéressé, c'est sous l'angle des sciences cognitives, puisque en spécialiste de la mémoire, je me suis évidemment rendu compte que des mécanismes physiologiques, naturels, du fonctionnement en particulier de notre mémoire, pouvaient nous rendre plus ou moins susceptibles à adopter, c'est-à-dire à adhérer à des fausses informations. Et puis, à partir de là, j'ai élargi un petit peu le sujet, et c'est comme ça que je m'y suis progressivement intéressé.
Et est-ce que, du point de vue de la psychologie, vous pouvez nous expliquer concrètement, quelles sont les étapes d'une création d'une opinion ?
Oui, alors assez modestement, parce que c'est un sujet extrêmement vaste et complexe. Ce qu'on peut dire du point de vue psychologique, c'est que finalement, nos opinions, elles se construisent à partir du seul matériau dont on dispose tous, c'est-à-dire les informations, c'est-à-dire ce qu'on peut lire dans les médias, entendre dans les médias, mais aussi les discussions qu'on peut avoir avec nos proches, des amis, au travail. Tout ça, c'est la matière dont on dispose pour petit à petit nous forger nos propres opinions individuelles et plus ou moins partagées collectivement. Et du point de vue psychologique, eh bien, la construction de nos opinions, elle commence donc par l'aptitude que l'on a à traiter ces informations. Donc, on peut distinguer plusieurs grandes catégories de processus, de mécanismes cognitifs, psychologiques qui sont impliqués là-dedans. À commencer par les toutes premières étapes du traitement de cette information. Et ici, on va forcément parler de l'attention et du fait que notre attention est particulièrement limitée et qu'en fonction de ce vers quoi on oriente ou non notre attention, on va déjà avoir accès à une portion finalement très congrue et très limitée des informations à notre disposition. Une fois que ces étapes attentionnelles, pour schématiser, sont mises en place, ensuite, il va y avoir toute la question de nos mécanismes de perception. Une fois que cette étape de perception, c'est-à-dire de représentation du monde, va être faite sur le plan psychologique, cognitif et donc évidemment cérébral, il va falloir lui donner un sens. Et là, on va tomber sur toute la question des biais cognitifs qui ont tendance à nous faire interpréter ces informations auxquelles on a été donc attentif ou pas et que l'on a perçues plus ou moins correctement d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Et une fois qu'on aura interprété ces informations qu'on s'est donc représentées, il s'agira de les garder en mémoire pour qu'elles deviennent ces connaissances qui, agglomérées avec d'autres connaissances qui sont déjà présentes, qui sont déjà à notre disposition, vont finir par former des croyances individuelles, lesquelles vont nous prédisposer à avoir telle opinion plutôt que telle autre et éventuellement à agir en fonction d'elles.
Et justement, est-ce que psychologiquement, on constate que certaines personnes, elles auraient peut-être plus de mal à se fabriquer une opinion que d'autres ?
Alors non, ça, sous la réserve évidemment qu'on parle de personnes qui ont à leur disposition un appareil psychologique qui fonctionne normalement, des personnes qui ne sont pas en situation de souffrance psychologique particulière ou qui n'ont pas de handicap cognitif particulier. Il n'y a pas de différence particulière entre les gens dans leur aptitude à se forger des opinions. En revanche, comme nos opinions vont, à partir de ce que je vous ai dit juste avant, en grande partie se construire en référence aux croyances et aux opinions que l'on a déjà, il y a évidemment une grande variabilité entre les personnes dans la manière dont elles vont se forger des opinions et dans le type d'opinion qu'elles vont développer pour elles-mêmes, puisque celles-ci vont en partie dépendre des opinions, des croyances, des connaissances que chacun a déjà. Donc on va, de ce point de vue-là, souvent, par exemple, interpréter beaucoup plus volontiers les informations à notre disposition dans le sens des croyances que l'on a déjà, plutôt que dans un sens qui irait à l'encontre des croyances, des valeurs ou des connaissances qui sont déjà à notre disposition. Mais il n'y a pas de personnes qui ont plus de difficultés à se forger des opinions que d'autres, de ce point de vue-là, non.
Et on dit que certaines personnes sont des personnes bornées, qui ne changeront jamais d'avis. Est-ce que ça ressort plus de l'éducation ou alors de l'état du cerveau ?
Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit, que certaines personnes sont plus bornées ou ont plus de difficultés à changer d'avis que d'autres, sont plus, peut-être on pourrait dire, rigides, moins souples, moins, peut-être aussi moins curieuses, c'est vrai. Je ne pense pas que ça ait grand-chose à voir avec le cerveau en tant que tel, mais plutôt avec des aspects qui sont plutôt psychologiques et affectifs, dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient plus bornés de façon générale et sur n'importe quel sujet. En revanche, ce qu'on peut assez bien comprendre, c'est que sur des sujets à propos desquels on a des opinions qui sont particulièrement structurantes et fortes dans notre identité, dans qui on est, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde, eh bien, ces opinions-là sur ces sujets-là sont évidemment déterminantes pour nous. Et donc, on va avoir plus de difficultés à s'en défaire ou à accepter des opinions ou des points de vue complètement différents parce que ça implique un coût psychologique et cognitif qui est très important de remettre en question ces opinions-là en particulier.
Et dans ce processus de perception, est-ce que les émotions entrent aussi en jeu ?
Oui, alors les émotions, elles jouent évidemment un rôle fondamental. Et en fait, avant d'imaginer le rôle qu'elles peuvent éventuellement jouer au niveau de l'interprétation des informations qui sont à notre disposition, je pense que le premier rôle, une sorte de filtre presque même que peuvent jouer les émotions, se passe bien en amont dans le traitement de l'information, c'est-à-dire dès les toutes premières phases de traitement de l'information, dans ces moments où j'évoquais tout à l'heure l'importance de l'attention. Par exemple, le fait de découvrir une information, quelle qu'elle soit, encore une fois, une discussion avec des amis ou un article de journal, qui revêt un caractère particulièrement anxiogène ou qui se présente sous une forme qui est extrêmement surprenante, vraiment très inattendue pour vous. Eh bien ça, parce que on est, j'allais dire, phylogénétiquement programmé à réagir de façon vive, immédiate à la nouveauté. Et si ce quelque chose est dangereux, il faut que physiologiquement, on soit prêt à y réagir de façon adaptée, puisque il en a longtemps été une question pour nous de survie. Donc, on va avoir des surréactions, notamment dans nos capacités à orienter l'attention sur tel ou tel aspect d'une information. Et donc, nos ressources attentionnelles vont se mobiliser préférentiellement vers ce type d'information au détriment du reste. Et donc ça peut évidemment jouer un rôle important dans la manière, au bout du compte, dont on va développer ou pas une connaissance, puis in fine des croyances et une opinion, puisque tout ce qui n'a pas fait l'objet de cette focalisation attentionnelle, c'est simplement quelque chose qui ne va pas rentrer dans le champ de votre conscience, que vous n'allez pas traiter, que vous n'allez pas percevoir, que vous n'allez pas interpréter, et qui pour autant peut être quelque chose de décisif pour vraiment comprendre l'information dont il s'agit. C'est pourquoi, dans la conférence, j'ai l'habitude de dire que certaines informations, lorsqu'elles sont présentées de façon particulièrement anxiogène, il peut être utile de se poser la question de « est-ce que cette présentation anxiogène de telle ou telle information est justifiée ?» Autrement dit, telle information qui me parvient, si elle était présentée de façon beaucoup plus neutre, est-ce qu'au fond, l'information serait différente ou est-ce que j'aurais la même information ? Et si la réponse, c'est que l'information serait finalement pas différente à être présentée de façon moins anxiogène et plus plate, Alors, méfiance, puisque si cette information a été présentée de façon inutilement anxiogène, c'est peut-être parce que l'intention est de focaliser votre attention sur certains aspects plutôt que tel autre, et en particulier de vous focaliser simplement sur cette information-là plutôt qu'une autre. Donc, le rôle de l'émotion, des émotions, pardon, dans la manière dont on se forge nos opinions, commence a priori au tout début du traitement de l'information, c'est-à-dire comment l'émotion peut être un puissant modulateur de ce qui va faire l'objet de notre attention et donc de l'information qu'on va traiter, et au contraire, laisser une partie de cette information en dehors de notre champ attentionnel et donc dans un espace qui restera largement invisible, non conscient pour nous. Indigo, where were you when I needed you most? Indigo, where were you when I needed you most? Needed you most. You love me differently. I loved you all the same.
Saya Gray avec son titre « This is why I don't spring for love », un titre qui parle de printemps pour accueillir ces quelques jours de beau temps en toute douceur sur Canal B. On retrouve tout de suite en plateau dans 3 en 1 sur Canal B pour l'interview du jour Pierre-Yves Jonin, docteur en psychologie et neuropsychologue au CHU de Rennes.
Et sur ce terrain des émotions, enfin des informations anxiogènes, pardon, il y a des chaînes de télévision qui se sont développées, notamment on parle de médias d'opinion, donc je pense à CNews qui va beaucoup jouer sur le terrain du sensationnalisme. Quel impact en fait ces médias ils peuvent avoir sur la fabrication de nos opinions?
Moi, j'aurais des difficultés à me prononcer sur l'impact de médias d'opinion en tant que tel. Ce qui est sûr, c'est que a priori, il y a plutôt un consensus pour dire que la désinformation ou la mésinformation, la diffusion de fausses nouvelles ou de nouvelles inutilement sensationnelles, c'est peut-être pas un phénomène qui a une ampleur plus grande, dans le sens où il y a toujours eu de la propagande, il y a toujours eu des fausses informations depuis que l'humanité existe. Ce qui a changé, c'est leur accessibilité, leur variété, leur support de diffusion et leur vitesse de propagation. Alors, la conséquence de ce phénomène en général, telle qu'elle est bien décrite par les personnes qui étudient ça de longue date, c'est plutôt des conséquences à un niveau collectif qu'individuel. C'est-à-dire que la conséquence de tout ça, ça va être la polarisation de l'opinion. Dans un contexte où le débat, justement, se limite un peu trop à du pour et à du contre, plutôt qu'à un véritable temps consacré avec des expertises et contre-expertises à du débat sur le fondement de tel ou tel projet de loi, par exemple, eh bien, si vous êtes face à cette polarisation de façon systématique, au bout d'un moment, on en arrive à une paralysie de notre système démocratique, parce que, bah, évidemment, tout le monde peut comprendre qu'on ne peut plus avancer sur quelque sujet que ce soit. Donc, je n'ai pas de réponse précise sur l'influence ou le risque de tel ou tel média d'opinion en particulier, Mais en revanche, le risque de paralysie démocratique du fait de la polarisation de l'opinion secondaire à la massification des médias, à la densification, à la vitesse de propagation d'informations de toutes sortes, oui, ça c'est clair, c'est bien établi, c'est bien compris. Et ça veut aussi dire que l'implication de tout ça est que les solutions pour se bagarrer contre cet état de fait sont beaucoup plus sociétales qu'individuelles. C'est-à-dire que si on veut se sortir de tout ça, évidemment, il faut envisager de pouvoir réglementer, mais il faut surtout envisager une refonte totale de notre système d'information. Et c'est sûr qu'en laissant la main de façon générale, quels que soient les bords politiques, à des grandes franges de systèmes d'information que sont les réseaux sociaux ou telle chaîne de télévision privée, eh bien, on se prive d'un système d'information démocratique, contrôlable, équitable et un peu plus juste, quoi.
Et vous parliez de l'augmentation de la vitesse de diffusion des informations, mais il y a aussi un autre phénomène, c'est la multiplication des infox et des fake news, qui est aussi un des points de départ de votre conférence. Est-ce que psychologiquement, certaines personnes seraient plus aptes à croire des fake news que d'autres? Et sinon, comment expliquer que ces fake news soient inégalement crues?
Alors, pour être très très clair, un message central de cette conférence, c'est que adhérer à une fake news ne suffit pas à évoquer l'ampleur du problème. C'est-à-dire, le problème, c'est pas seulement d'adhérer à des fausses informations. Le problème, ça peut être aussi, par exemple, de ne pas adhérer à des informations tout à fait correctes et par ailleurs même utiles pour soi. La récente pandémie de Covid-19 en a été un bon exemple. Et donc, de ce point de vue, un message important de la conférence, c'est de dire que tout ça n'a rien à voir avec l'intelligence individuelle et rien à voir avec le niveau même d'expertise individuelle. Autrement dit, on ne peut pas se dire qu'on va être plus prémuni que quelqu'un d'autre contre le fait d'adhérer à des fake news ou de ne pas adhérer à des informations correctes sous prétexte qu'on serait plus malin, plus intelligent, plus cultivé, plus expert dans tel ou tel domaine. Évidemment, le fait d'avoir beaucoup de connaissances sur un domaine particulier, ça peut un petit peu nous protéger dans ce domaine-là de croire à des imbécilités, mais ça ne va pas nous en prémunir complètement. Pourquoi ? Ben, notamment parce que on est soumis, comme je parlais tout à l'heure, à toute une série de biais cognitifs qui vont orienter nos interprétations des faits dans un sens bien particulier. Et ça, on peut même être expert soi-même en biais cognitifs. On va néanmoins être soumis à ces mêmes biais. Tout dépend du contenu de la fake news, du moment où vous en prenez connaissance, si on parle simplement des fake news ou des infox, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce moment-là, de votre but aussi, dans le moment précis où vous prenez connaissance de telle ou telle information. Donc, ça va dépendre de tous ces facteurs-là. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire une taxonomie avec d'un côté des gens qui seraient plus susceptibles de croire aux fake news et puis de l'autre, des gens qui en seraient parfaitement prémunis.
Et pour finir, il y a depuis une petite dizaine d'années, il y a de plus en plus d'initiatives qui cherchent à sensibiliser aux fake news en général. Il y a notamment l'éducation aux médias ou les conférences comme celle que vous proposez. Est-ce que ces initiatives, vous avez l'impression qu'elles fonctionnent, entre guillemets ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont un impact ?
Moi, je pense qu'elles ont un impact. C'est pour ça que ça m'intéresse de le faire et de continuer à le faire. Je pense qu'elles ont un impact parce qu'elles nous permettent de prendre conscience sous un autre angle de ces phénomènes-là. Par exemple, dans la conférence que j'ai donnée, l'idée, c'est de donner, pour le coup, de l'information, j'espère, et pas des infox, aux gens sur la manière dont ils fonctionnent, encore une fois, simplement lorsqu'on traite tous des informations, les contraintes physiologiques auxquelles on est soumis et l'idée donc que en ayant conscience qu'on fonctionne comme ça, on peut, j'espère, après cette conférence, avoir en tête que on s'est déjà fait avoir par des infox, tous, individuellement, et ça se reproduira. Simplement, on peut avoir des petits leviers à l'échelle individuelle pour essayer de ne pas se faire berner, mais en même temps, une fois qu'on sait comment on fonctionne et qu'on sait que cette façon de fonctionner que l'on a individuellement comme être humain nous rend tous individuellement sensibles aux fausses informations et à la désinformation, en quelque sorte malgré nous, ça veut dire que, encore une fois, ce n'est pas dans la responsabilisation individuelle et dans l'éducation individuelle que se trouve la solution, mais plutôt dans des solutions, j'en parlais tout à l'heure, sociétales, de refonte de notre système d'information, etc. Et donc, je pense qu'il y a, un bénéfice à ces actions de vulgarisation, à ces conférences, mais à condition que le message soit le bon. Et encore une fois, le message ne peut pas être celui de la responsabilisation individuelle, quoi, même si c'est quelque chose qui est très à la mode dans, dans notre société. Mais ce n'est pas là que se situe la solution. La solution, elle est, encore une fois, sociétale et au niveau des systèmes, de nos systèmes d'information, et pas dans un espoir qui serait, à mon avis, vain, parce qu'on pourra... L'espoir, par exemple, qu'une éducation aux médias ou à l'usage des médias qui commencerait, qui a déjà commencé et qui se poursuivrait de façon très performante sur une, deux générations d'élèves, par exemple, et de futurs citoyens, ça résoudrait tous les problèmes parce que, étant correctement informé, ils seraient plus sensibles à la désinformation. Non, on y est tous sensibles, on s'est fait avoir, on se refera avoir. Et donc, la solution, elle n'est pas individuelle, elle est d'abord sociétale.
Merci beaucoup Pierre-Yves Jeunin d'avoir répondu à nos questions dans 3 en 1. Je le rappelle, vous êtes docteur en psychologie et neuropsychologue au CHU de Rennes. Merci à vous.
Merci à vous aussi.
De retour dans 3 en 1. Avec nous pour cette deuxième partie d'émission, Jean-Claude et Patrick nous ont rejoints en studio. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Jean-Claude et Patrick, vous êtes tous deux membres du réseau Dignité Cimetière qui depuis plus de 15 ans lutte pour toutes les personnes décédées dans l'isolement social, dans la rue et ou dans la grande précarité. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans l'entre-deux-tours des élections municipales, vous interpellez les candidats et les candidates sur ce sujet. Alors première question, pourquoi c'est important aujourd'hui pour vous de prendre la parole sur ce sujet-là ?
La problématique... Des obsèques et des inhumations sont de la compétence des communes. Et donc forcément, l'occasion pour nous est bienvenue là, de pouvoir nous adresser à tous les candidats de tous les partis pour leur suggérer d'insérer dans leur programme un certain nombre de mesures que portent les collectifs Bretagne.
Et donc, vous demandez aux candidats, candidates d'intégrer plusieurs mesures dans leur programme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus précisément ?
Oui, il y a un certain nombre de mesures qu'on souhaite voir intégrées dans les programmes, en particulier la recherche de famille. C'est un gros problème aujourd'hui. La recherche de famille, il n'y a pas d'obligation de faire cette recherche de famille, et ce qui fait que si la recherche n'est pas faite suffisamment n'est pas suffisamment approfondie, on arrive que des familles arrivent après et après le décès, le décès, l'inhumation de leurs proches. Donc la recherche de famille, c'est très très important, ça évitera un peu des drames humains de familles qui découvrent très tardivement le décès d'un proche.
Et vous aviez un exemple à ce sujet pour expliquer aux auditeurs, auditrices ce qu'il en est dans la réalité.
La recherche de famille est importante quand la personne décédée est isolée. Sébastien est décédé en 2025. Il vivait à la rue sur Rennes depuis 2017. Il n'avait aucun contact avec sa famille. Ici à Rennes, nous avons un réseau d'une trentaine d'organismes sollicités pour la recherche des proches. Le collectif en fait partie. Sébastien est accompagné par l'association Envol. Lors d'un échange avec la personne qui assurait son suivi au sein de cet organisme, Sébastien avait confié que son père et ses deux sœurs habitaient dans le Finistère. Grâce à cet échange, nous avons pu retrouver et contacter la famille de Sébastien. Dans la douleur, la famille a apprécié les recherches qui avaient été faites afin de ne pas laisser Sébastien partir tout seul. Le corps de Sébastien a été crématisé et ses cendres ont rejoint un caveau familial.
Merci pour cet exemple. Il y a une deuxième mesure que vous préconisez qui est en rapport avec les sépultures et le fait qu'elles soient séparées des autres sépultures dans les cimetières ou non.
Pour nous, nous souhaitons vivement que disparaissent les carrés dédiés qu'on a appelés autrefois et malheureusement encore des carrés d'indigents. Donc, c'est une façon de poursuivre la ségrégation sociale qui existe déjà de leur vivant. Et donc, il y a déjà des collectifs qui ont agi dans leur commune ou dans leur ville pour que les sépultures soient intégrées avec les autres sépultures de la commune. Et donc, ça, c'est un premier pas. Un deuxième pas, c'est que ces sépultures qui réintègrent le cimetière avec les autres sépultures, qu'ils aient un aménagement qui soit harmonisé avec les sépultures environnantes. Parce que si on a un environnement de tombe avec du granit, enfin minéral, et si on met un entourage en bois, voilà, on poursuit la ségrégation à nouveau. C'est pas un carré, mais c'est une façon d'aménager les tombes qui provoque finalement de la stigmatisation, quoi.
Et pour cela, vous aviez aussi un exemple à partager aux auditeurs et auditrices.
Gilbert était à la rue sur Rennes, hospitalisé d'abord à la Guerche de Bretagne, puis à Vitré, il est décédé à l'hôpital de Vitré. Sans ressources suffisantes, Gilbert a été inhumé dans un carré dédié aux personnes démunies de ressources. Le collectif Dignité Cimetière de Vitré a agi près de la mairie pour que ce carré particulier soit progressivement remplacé par des inhumations parmi les autres sépultures du cimetière. Avec un aménagement digne de ce nom, aujourd'hui ce collectif agit pour que les tombes soient aménagées en harmonie avec les sépultures environnantes. Le quartier particulier a disparu, mettant fin à une ségrégation sociale.
Et donc, il est possible de mettre fin à ces carrés d'indigents, comme vous venez de nous le rappeler. Et ensuite, parmi les deux dernières mesures que vous préconisez, il y a aussi des choses qui sont liées à l'identification des défunts et des défuntes.
Il y a encore souvent dans des cimetières des tombes de personnes dont les frais d'obsèques ont été pris en charge par la commune, qui sont pas aménagés du tout, hein, qu'on a toujours des tombes en terre, donc qui s'effondrent progressivement au fil des années, et il n'y a pas de nom, pas de prénom, donc on ne connaît pas l'identité du défunt qui occupe cette tombe.
Et pour finir, la dernière mesure que vous préconisez avec le réseau Dignité Cimetière,
c'est la question de la crémation. Il y a encore beaucoup de communes qui n'intègrent pas la crémation dans le service que ici à Rennes on appelle solidarité, c'est-à-dire entièrement pris en charge par la commune, et donc c'est systématiquement une inhumation du cercueil, alors qu'en fait nous demandons aussi que la possibilité de crémation soit intégrée dans les possibilités que la commune offre. Selon évidemment le souhait exprimé de la personne.
À Rennes, quand il y a crémation, selon la volonté du défunt exprimée de son vivant, l'urne cinéraire est déposée dans un carré cinéraire avec d'autres sépultures. La tombe est recouverte d'une dalle de granit poli avec une plaque d'identification. Ceci permet aux proches de venir se recueillir, parfois des années après.
Merci beaucoup Jean-Claude et Patrick. Vous soulignez aussi dans la fin de votre appel avec le réseau Dignité Cimetière que les personnes à la rue, même si elles sont souvent ou parfois isolées et sans ressources, elles savent se mobiliser pour rendre hommage à celles et ceux qui décèdent seuls. Vous en attendez de même des prochaines municipalités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Canal B aujourd'hui.
Merci à vous aussi.
Merci à vous.
Et merci à nos invités et à Julie pour la réalisation de cette interview du jour et pour cette émission. Tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et en rediffusion les lendemains à 8h15 sur le 94 FM. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 12h15. Merci d'avoir été avec nous et en attendant, profitez bien du soleil qui revient. Bonne journée à vous.